Benjamin Charlier, vous êtes candidat aux législatives 2017 avec le parti ANLD, donc à nous la démocratie, et vous êtes également avocat au barreau d'Arras. Et vous avez pour suppléant Mohamed Akli Zakenoun, qui lui aussi est avocat au barreau d'Arras.
Exactement.
Il y a une stratégie électorale qui est plutôt intéressante, c'est qu'il y a seulement 10 élus parmi les 577 circonscriptions, hein, c'est bien ça?
Exactement. Enfin, un peu plus. On est 12, je crois.
Ah, 12.
Ouais.
Et donc, comment vous avez fait stratégiquement pour placer, évidemment, tous les candidats dans ces circonscriptions?
C'est tout simplement, en fait, ce sont des gens qui se sont portés volontaires. Et il n'y a pas eu de placement, en fait. Les gens appartenaient à tel endroit, comme moi, parce que je suis venu vivre à Arras il n'y a pas longtemps. Donc quand j'ai décidé de m'engager dans la politique et dans la démocratie, ben je me suis inscrit dans la deuxième circonscription du Pas-de-Calais, donc qui concerne Arras. Et à Paris, ça a été pareil. On s'est mis là où il y avait des volontaires. Et ben donc il y a eu des candidats. Alors effectivement, à nous la démocratie n'est pas toute seule, puisque justement, comme on dit, l'union fait la force. Et donc nous sommes alliés à d'autres mouvements citoyens ou à plus alternatifs, comme la relève citoyenne, ce genre de mouvement, qui ont eux aussi des candidats dans d'autres circonscriptions, ce genre de choses, qui fait qu'aujourd'hui, avec nos alliés, il y a un maillage territorial plus important.
J'ai lu le sigle Caisse Claire également.
C'est le groupement politique en fait sous lequel se sont rassemblés à nous la démocratie, la relève citoyenne et d'autres mouvements citoyens.
Ok. Donc, voilà. Une chose qui est peu banale également, c'est que les membres fondateurs du mouvement ne se présentent pas eux aux élections.
Oui. Alors, ça va dans la droite lignée en fait de la doctrine d'À nous la démocratie, qui est justement, vous l'aurez compris, de remettre de la démocratie dans le système français. Et le constat, et je pense qu'on l'a vu avec la piètre démonstration qui a été faite lors des dernières élections présidentielles, et puis depuis des années, c'est que les partis politiques, je dirais classiques, les gros partis politiques, fonctionnent de manière parfaitement verticale. C'est-à-dire qu'on les entend parler de république, de démocratie à toutes les sauces, je dirais. Mais au final, dans le système actuel, la démocratie ne s'exerce que lorsque on a besoin des électeurs, c'est-à-dire lorsqu'on vient récolter leur suffrage, uniquement pour être élu, bien évidemment, mais on leur rend jamais aucun compte, en fait. Il y a une vision verticale des choses, c'est-à-dire qu'on va vers le peuple juste pendant deux jours par tous les cinq ans en fonction des échéances, et puis après, aucun retour, on fait ce que l'on veut. Et les élus, et en l'occurrence, on va parler des législatives, par exemple, pour les gros partis, il n'y a aucun doute à se poser, c'est-à-dire que les élus qui seront, que ce soit le PS, LR, En Marche, hein, c'est pareil, hein, c'est juste un autre avatar des gros partis politiques, hein, mais il ne faut pas se leurrer, ça reste un parti politique comme le PS ou comme les Républicains, ils ne rendront de compte qu'à Macron. Pendant les cinq années dans lesquelles ils seront élus, et à aucun moment ils reviendront vers la base. Et nous, c'est justement ça qu'on voulait éviter, et ce que l'on veut faire, c'est justement, si on arrive à avoir des élus, c'est de revenir tout le temps vers la base, c'est-à-dire de toujours prendre les décisions avec la base. Et c'est pourquoi les 8 membres fondateurs de À nous la démocratie se sont abstenus d'être candidats pour justement ne pas donner l'impression que ça fonctionne comme les autres partis, c'est-à-dire qu'il y a une tête d'affiche à qui on doit allégeance et qui a la bonne parole, ben non justement. Donc les membres fondateurs se sont dit on ne se présente pas pour justement laisser à des gens qui sont comme moi et comme les autres, de vrais citoyens et qui ne sont pas à l'origine du mouvement, qui adhèrent par les idées forcément, mais qui ne sont pas à l'origine du mouvement pour vraiment avoir des candidats purement citoyens et ne pas être dans une dynamique verticale où tout compte doit être rendu à un grand chef, tout simplement.
On voit un peu fleurir un peu partout sur le net et dans une certaine presse spécialisée que vous êtes un petit peu le Podemos à la française. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette appellation?
Alors personnellement, non, parce que Podemos, arrêtez-moi si je me trompe, était de gauche. Hein, alors je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de...
Mais dans sa démarche, hein, dans sa démarche.
Dans la démarche, oui, non, notre démarche, effectivement, elle est de revoir les institutions, effectivement, et de remettre le citoyen au centre de tous les processus décisionnels, et d'en finir justement avec les gros partis qui conservent entre leurs mains les pouvoirs sans partage. Bon, ils se l'échangent entre eux d'une manière qu'ils veulent bien, hein, évidemment, mais sinon, je veux dire, le citoyen n'est jamais sollicité, sauf, comme je l'ai dit, pendant les élections. Et ça, c'est pas normal. Quand on emploie le mot démocratie à chacune de nos phrases, et là, je parle pour les politiciens que je vise, à un moment donné, il faudrait savoir de quoi on parle quand on parle du mot démocratie.
Votre programme, il y a 6 propositions.
Exactement.
Il y en a une qui est intrigante également, création d'un article 49.4, hein, puisque évidemment on connaît bien le 49.3 maintenant. Donc expliquez-moi un peu ce que ça signifie.
Alors le but du 49.4, évidemment le terme était un petit peu provocateur pour que les gens puissent savoir de quoi on parle, c'est tout simplement rendre le gouvernement responsable devant le peuple. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui voudrait faire passer un texte de loi, peu importe, devant l'Assemblée nationale, mais n'y parviendrait pas pour une raison de majorité, par exemple, mais qui souhaiterait que ce texte soit absolument adopté, il pourrait y procéder par référendum, mais en engageant sa responsabilité. Le référendum dit oui, la démocratie est exercée par le peuple directement, il dit oui, il n'y a pas de souci. Il dit non, le gouvernement démissionne.
Si on parle du mandat local, donc vous voulez lutter également contre le parachutage et imposer que tout candidat à une élection municipale réside réellement dans cette commune depuis 5 ans.
Exactement, puisqu'on peut le voir, les mandats municipaux sont des mandats locaux et c'est vrai qu'on a pu le voir, il y a un certain nombre d'exemples caractéristiques tout de même qui ont montré que certains partis politiques qu'on connaît ont pu parachuter des personnes lors d'élections dans des grandes villes au local, comme on a pu voir par exemple Chirac à Tulle, ce genre d'exemple-là. Et ça, c'est parfaitement inadmissible parce que là, c'est un mandat local, il est parfaitement intolérable de voir que ce sont les partis politiques avec leurs petits arrangements qui s'arrangent de savoir qui c'est qui va être maire d'une ville alors que finalement la personne n'y a jamais résidé, ne connaît peut-être même pas cette ville avant même d'y arriver. C'est intolérable, c'est antidémocratique pur et dur. Malheureusement, les institutions et le système à l'heure actuelle le permettent, donc on considère que ça doit être interdit, tout simplement.
Vous voulez réinventer le Sénat également et le remplacer par une Chambre des Français établi par tirage au sort.
Effectivement, puisque la démocratie aujourd'hui s'exercerait par un échange entre deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et aujourd'hui, on considère que le Sénat n'est pas inutile, puisque comme on veut le remplacer, on veut le réinventer. Mais en tous les cas, les personnes qui y siègent aujourd'hui, je pense qu'on peut s'en passer. Je pense qu'il est nécessaire justement d'éviter d'avoir deux chambres, je dirais, de technocrates qui s'affrontent et qui finalement, dans la même mouvance que tout le reste, conservent le pouvoir entre eux et font un peu ce qu'ils ont envie avec les propositions de loi au gré des majorités et des accords. Tandis que si l'on garde l'Assemblée nationale telle qu'elle, mais que ajoute à côté un vrai contre-pouvoir, un vrai garde-fou, et cette fois populaire, avec des gens élus, et qui accepte bien évidemment de siéger et qui permettrait un échange entre l'Assemblée nationale et ce Sénat. On trouve que c'est parfaitement intéressant parce que pour en finir sur cette thématique, il y a un mythe aujourd'hui qui est entretenu par les pouvoirs politiques en place et par les grands partis politiques, c'est-à-dire l'inaccessibilité à la pratique politique, à la profession politique, vous voyez, je fais même un lapsus parce que je déteste ce terme, par n'importe qui, parce qu'on considère qu'il faut avoir fait des études, je n'en sais rien, ou avoir fait l'ENA, ou je ne sais pas, pour pouvoir pratiquer la politique, parce que les problèmes qui concernent la France, peu importe leur domaine, seraient inaccessibles pour le français lambda. Déjà, ce mythe me laisse penser qu'on prend les Français pour plus bêtes qu'ils ne le sont. Et de deux, lorsque l'on voit comment se prennent des lois, dans les grandes assemblées, ils fonctionnent par commission. Et commission, on travaille sur un texte. Mais en règle générale, les députés, ils font venir des spécialistes de la question. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas sachants. Pourquoi est-ce qu'un Français lambda, dans un Sénat populaire, ne s'organiserait pas de la même manière par commission et serait éclairé sur les questions qui sont techniques, effectivement, et qui ne vont pas de soi, mais qui, par des sachants, comme font tous les députés. Donc tout ça est un mythe, en fait. L'accession au pouvoir, aux assemblées qui décident ce genre de choses, est possible et est même nécessaire si on veut vraiment être dans un processus institutionnel purement démocratique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et il faut changer cela. Et je pense que cette idée de ce Sénat populaire élu par tirage au sort est une bonne idée.
Une dernière question, et là ça vous concerne directement, j'imagine, puisque vous êtes avocat au barreau, établir une justice impartiale pour les responsables politiques, surtout qu'en ce moment on est un petit peu dans certaines affaires qui se coupent pas mal le monde juridique, et créer donc une cour spéciale indépendante. Alors ça c'est un gros chantier. Hein.
Oui, c'est un gros chantier, mais je pense qu'aujourd'hui on peut le voir au travers de ce que les médias font place justement à ce genre d'affaires, et je pense que les réactions vives de la population justifie ce genre de mesures, parce que il est aujourd'hui intolérable de voir que les partis politiques, ou en tout cas leurs membres lorsqu'ils sont élus, ont cette espèce d'immunité où ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent, et on verra plus tard si on les poursuit. Non, à un moment donné, je pense qu'on doit les rendre responsables, tant sur le boulot comme on a pu le voir sur les autres points, mais effectivement les rendre responsables s'ils commettent des infractions, et ce en tout temps, et justement particulièrement lorsqu'ils sont en fonction, et de créer cette cour spéciale-là où les magistrats et il y aurait un jury populaire, les deux seraient tirés au sort pour justement éviter toute connivence quelconque et de pression, en sachant que c'est un magistrat de cette cour spéciale, ce genre de choses.